Bonjour à tous et à toutes. Pour l'étude d'Élisée, ce soir, je vais faire comme j'avais fait pour Abraham. Je ne vais pas parler spécialement d'Élisée, mais d'une personne qu'il a côtoyée au cours de son ministère. Parce que je pense que les personnes de son entourage peuvent nous apporter aussi beaucoup. Donc ce soir, je vais vous parler de la Sulamite, qui est une personne qui hébergeait Élisée régulièrement. Et à propos de cette Sulamite, je vais parler de son hospitalité, mais aussi de la chambre qu'elle avait construite avec son mari pour héberger Élisée. Alors, ce passage concerne deux rois, chapitre 4, versets 8 à 11. Donc, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voilà, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisant une petite chambre haute en dur et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc, c'est quatre versets, mais qui sont très, très riches. Alors, c'est marqué, « Dans ses voyages, il semble qu'Élisée devait souvent passer par Sunem, où il s'arrêtait pour se reposer, avant de poursuivre sa route. Et c'est dans cette ville qu'une femme riche, très aisée et estimée l'a accueillie, contrairement à Élie qui fut accueilli par une pauvre veuve de Sarepta. Cette femme de Sunem s'était empressée d'inviter ce voyageur à accepter son hospitalité. Et c'est ainsi que toutes les fois qu'Élisée passait à Sunem, il se rendait chez elle pour manger, car il savait être le bienvenu. L'hospitalité était un devoir sacré en Orient, et la loi mosaïque la recommandait aussi. En Lévitique, chapitre 19, verset 34, il est écrit « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Exercer l'hospitalité en Orient, c'était accueillir le voyageur, l'étranger, qui s'arrêtait devant sa maison ou sur la place publique. C'était le nourrir, le loger et le protéger. On le voit dans le récit des deux anges qui sont entrés à Sodome. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. C'est Genèse, chapitre 19, versets 1 à 3. Ce n'étaient pas des restes qu'ils ont mangés, mais un festin. Puis, lorsque les hommes impies et méchants de Sodome ont voulu faire du mal à ces deux étrangers, Lot s'est empressé de les défendre et était même prêt à leur livrer ses deux filles afin que ses visiteurs soient protégés. Il ne savait pas que c'était des anges. Cela nous montre ce que représentait l'hospitalité, notamment son importance. Elle pouvait conduire jusqu'au sacrifice, afin de prendre soin de ceux qu'on avait accueillis. L'hospitalité était un devoir, un honneur et une responsabilité. On était prêt à se retirer pour faire place aux visiteurs. Cela se fait encore aujourd'hui dans certains endroits. Les mots « hospitalier » et « hospitalité » en grec signifient « ami des étrangers » et « amour des étrangers ». Le Nouveau Testament nous parle également de l'importance de l'hospitalité parmi le peuple de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 9, nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Et en Romains, chapitre 12, verset 13, il est écrit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Et je pense que cela fait partie de la communion fraternelle que nous devons maintenir et développer. Il est dit des chrétiens de l'Église primitive à Jérusalem qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, ce qui veut dire qu'ils se recevaient les uns les autres, leurs portes étaient ouvertes. Dans l'Église primitive, une des qualifications demandées à celui qui voulait exercer une responsabilité, c'était d'être hospitalier. C'est ce que nous lisons dans Tite, chapitre 1, versets 7 et 8. Il faut que le dirigeant soit irréprochable, hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, etc. Donc, il y a hospitalier. L'hospitalité nous aide à être ouverts vis-à-vis des autres et de leurs besoins. Elle nous aide à avoir un cœur ouvert, une porte ouverte à l'accueil et au partage. Elle nous aide à ne pas tomber dans l'égoïsme, dans la solitude et finalement à nous renfermer. Si l'hospitalité signifie porte ouverte, en tant que croyant, il nous faut toutefois avoir du discernement. Comme le dit la Bible, soyez simples comme des colombes, non pas simplistes, mais naturels et humbles, et prudents comme des serpents. C'est Matthieu, chapitre 10, verset 16. Et ceci, afin de ne pas ouvrir la porte aux vautours et aux loups, qui sont parfois camouflés sous une peau de brebis. Il y en a qui ont été recueillis chez des croyants et qui ont semé la discorde, la zizanie, la division et même des fausses doctrines. En cela, la Bible nous met en garde. Il serait même préférable d'accueillir un clochard tout crasseux qu'un loup déguisé en ange de lumière. Il est écrit dans 2 Jean, versets 7 et 10, « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Dans ce cas, il n'y a pas de place pour l'hospitalité. » L'apôtre Paul nous dit aussi dans Romains, chapitre 16, versets 17-18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Les simples sont ceux qui manquent de discernement, de sagesse et de prudence. De même, il nous est demandé de nous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre en ne voulant pas travailler, mais en s'occupant uniquement de futilité. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 12. Le Seigneur Jésus a censuré les pharisiens en leur disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. » Matthieu, chapitre 23, verset 14. En effet, des veuves les accueillaient et eux les dévalisaient en leur demandant de l'argent en échange de leurs prières et bénédictions. C'est ce que, malheureusement, beaucoup de religieux font encore aujourd'hui. La vente des indulgences n'est pas terminée. Mais l'hospitalité faite avec sagesse et discernement est une source de bénédiction. Premièrement, elle nous libère de l'avarice et de l'égoïsme. Deuxièmement, elle nous procure la joie, car il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Troisièmement, elle nous fait sortir de la solitude et de nos propres problèmes pour nous tourner vers les autres. Quatrièmement, l'hospitalité est une source d'enrichissement. Nous apprenons à connaître d'autres horizons, des personnes qui viennent d'autres milieux. La Bible dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Hébreux, chapitre 13, verset 2. Si les habitants de Bethléem avaient su que Marie portait en elle le Messie, certainement que beaucoup de portes se seraient ouvertes pour l'accueillir. Cinquièmement, il y a des promesses divines de bénédiction pour le temps présent et celui à venir pour ceux qui exercent l'hospitalité. En Matthieu, chapitre 10, versets 40 à 42, Jésus nous dit « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Bien que nous ne devions pas exercer l'hospitalité en vue d'une bénédiction, sachons cependant que nous ne serons jamais perdants en l'exerçant dans l'amour de Christ. Selon qu'il est écrit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » C'est Hébreux, chapitre 6, verset 10. Revenons maintenant à notre histoire concernant Élisée, qui était reçue à Sunem, chez cette femme de distinction. Cette Sunamite devait être pieuse, craignant Dieu, car elle manifestait une foi vivante en accueillant avec joie et empressement les étrangers de passage, dont Élisée, bien sûr. Sa foi en Dieu se manifestait également par un discernement spirituel. Ainsi, elle déclare à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » C'est au verset 9. Alors, pour elle, c'est un grand privilège de pouvoir accueillir cet homme de Dieu et elle va proposer à son mari, de lui construire une petite chambre indépendante et toute meublée en y mettant tout ce qui pourrait être nécessaire pour le bien-être de cet homme. Élisée avait un ministère public parmi le peuple, dans les grands centres et devant les chefs d'État, mais il avait aussi besoin d'être renouvelé, d'être ressourcé. Alors, comment puisait-il la force, l'énergie, le courage, la sagesse, la direction et l'onction dans son ministère? La réponse est dans le secret de la chambre haute. Voilà. Ce n'est pas un roman. Voilà. Ce secret est valable pour chacun d'entre nous qui sommes appelés en tant que croyants à vivre dans ce monde la vie sainte, pure, glorieuse et victorieuse des enfants de Dieu, à être la lumière du monde et le sel de la terre, à marcher comme Christ a marché. La Bible nous dit « Tel il est, lui le Seigneur, tel nous sommes aussi dans ce monde. » C'est 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Mais Comment pouvons-nous vivre une vie chrétienne victorieuse? Ce n'est certainement pas à coup de baguette magique que cela pourra nous arriver, ni par l'imposition des mains ou par la bénédiction d'un serviteur de Dieu. Car ce serait croire qu'en avalant un comprimé miracle, toute notre vie pourrait être changée immédiatement. Avoir une vie chrétienne stable et victorieuse a son secret. Et ce secret se trouve dans une chambre haute. Ainsi, j'aimerais vous parler de cette petite chambre haute et du mobilier qui la composait pour le bien-être de l'homme de Dieu. Alors, premièrement, cette chambre haute, avec des murs, était isolée et protégée, donc indépendante du reste de la maison, car on y avait accès par un escalier extérieur. La chambre haute nous parle de l'importance, plus que toute autre chose, de la communion avec Dieu dans la prière. Quand tu pries, dit Jésus, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 6. Le jour de la Pentecôte, c'est dans la chambre haute où il est dit que 120 disciples se tenaient d'ordinaire, qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, versets 13 et 14. Ils avaient pris l'habitude de se rendre dans la chambre haute et de passer du temps dans la prière. Frères et sœurs, ayons notre lieu, notre chambre haute, là où nous avons nos rendez-vous avec Dieu, là où nous pouvons passer du temps dans la présence de Dieu. C'est indispensable si nous voulons vivre la vie victorieuse des enfants de Dieu. Deuxièmement, dans la chambre haute, il y avait un lit. Cela nous parle de repos. Avant de faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu et de courir, nous devons apprendre à nous reposer, à entrer dans le repos du « Tout est accompli » du Seigneur Jésus à la croix, qui est le repos que Dieu nous offre. Je ne puis rien faire pour me sauver. Dieu a tout fait pour moi en Christ, pour me pardonner, me sauver et me donner la vie. Tout ce que j'ai à faire est de me reposer par la foi dans son œuvre. Se reposer en Christ, c'est placer toute notre vie, tout notre poids, tous nos fardeaux sur lui. Ainsi, nous ne portons plus rien. C'est Christ qui nous porte, comme le lit nous porte lorsque nous sommes couchés. Il y en a qui veulent porter le monde entier sur leurs épaules et tous les problèmes qu'ils rencontrent. En général, ils ne vont pas très loin, car ils sombrent sous le poids, dans la dépression. Nous devons apprendre à nous décharger sur le Seigneur de tout fardeau, pas seulement des nôtres, mais également des problèmes de ceux qui viennent à nous. Il n'y a aucune limite à la grâce que Dieu veut répandre sur nous. Il veut tout nous donner, toutes ses bénédictions. Mais nous ne pourrons rien recevoir tant que nous ne nous sommes pas reposés sur lui. La Bible déclare, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. » Hébreux, chapitre 4, verset 3. C'est ce que peut représenter le lit de la chambre haute. Le Seigneur nous invite en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Apprenons à nous reposer uniquement sur le Seigneur pour tous nos besoins. C'est ainsi que nous serons renouvelés spirituellement, physiquement et psychiquement. Car Dieu nous dit dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la conscience que sera votre force. » Il y a aussi concrètement le repos physique qui est important et que nous ne devons pas négliger. Nous devons apprendre à nous arrêter quand c'est nécessaire. Dieu a dit, « Tu travailleras 6 jours, mais le 7e est le jour du repos, dit l'Éternel. » Exode, chapitre 20, versets 9 et 10. C'est ce que Jésus avait dit aussi un jour aux disciples. Il leur avait dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Marc, chapitre 6, verset 31. Troisièmement, dans la chambre haute, il y avait une table qui servait pour mettre les repas, la nourriture. Il est dit que, toutes les fois qu'Élisée passait par Sunem, il se rendait chez cette femme pour manger. Verset 8. Cette table était très certainement préparée soigneusement avec toute la nourriture nécessaire pour le bien-être du prophète. Concrètement, n'oublions pas que notre corps est fait de la poussière de la terre, qu'il est régi par des lois physiques et qu'il a besoin d'être entretenu, gardé dans la propreté, vêtu et nourri convenablement, d'être en activité et de jouir aussi de repos. Ce corps, nous dit la Bible, est le temple du Saint-Esprit pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et la Bible dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Nous devons aussi réaliser que nous ne sommes pas faits seulement de chair et d'os, de sang et de nerfs, mais nous avons une âme et un esprit, et il importe également d'en prendre soin et de les nourrir convenablement. Le Seigneur Jésus l'a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu, chapitre 4, verset 4. Ainsi, la table peut représenter la parole de Dieu, d'où l'importance de nourrir journellement notre vie spirituelle par la parole de Dieu. Et là, je dirais, pas comme un fast-food où tout est expédié rapidement en 5 minutes en se tenant debout. Nous ne devons pas agir ainsi, mais nous devons prendre le temps pour lire et méditer la parole de Dieu. C'est quatrièmement ce que peut nous montrer la chaise dans la chambre haute. Nous devons apprendre à nous asseoir, à prendre du temps, car un festin, cela se prend en étant assis. Le siège de la chambre haute, placé devant la table, peut nous parler de l'importance de la méditation, de l'étude de la parole de Dieu. Le psaume 1, au verset 2 et 3, nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Il y a aussi cette prière du psalmiste qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est psaume 119, verset 18. Mais pour comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique, nous avons besoin d'être éclairés et c'est pour cela que nous arrivions au cinquième objet de la chambre haute qui est le chandelier. Le chandelier peut représenter le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 5, verset 18, nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Cela veut dire que tout en nous doit être inondé par la lumière du Saint-Esprit pour nous enseigner, nous rappeler, nous guider et nous aider à vivre la parole de Dieu. Jean, chapitre 14, verset 26. Voulons-nous une vie chrétienne stable et victorieuse? Alors, découvrons-la dans le secret de la chambre haute. Premièrement, cultivons la communion intime avec Dieu dans la prière. Deuxièmement, découvrons le lit qui est le repos parfait dans toute l'œuvre de Christ. Troisièmement, approchons-nous de la table où se trouve toute la nourriture spirituelle nécessaire à nos âmes dans la parole de Dieu. Psaume 23, verset 5 nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quatrièmement, prenons la peine de nous asseoir et de prendre du temps à cette table en méditant, en étudiant et en sondant les Écritures. C'est ce qui est représenté par la chaise dans la chambre haute. Cinquièmement, laissons-nous constamment éclairer, pénétrer par le Saint-Esprit, alors que nous vivons dans un monde de ténèbres. Laissons-nous éclairer par le chandelier, la lumière du Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu et les richesses glorieuses et éternelles de l'héritage que Dieu réserve aux saints qui sont ses enfants. C'est le chandelier qui nous les révèle, car il est écrit « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu ». 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Maintenant, je vais rajouter une petite méditation, parce que tous les matins, je médite et j'écris que je médite sur un cahier. Et le 18 février, justement, j'ai marqué « Se borner à enseigner ne suffit pas, car cela nourrit seulement la connaissance. Il ne suffit donc pas de savoir, mais sommes-nous connus de Dieu comme ceux qui ont des cœurs engagés pour lui ?» Dieu apprécie l'engagement réel de nos cœurs pour lui, et ce n'est que dans sa présence que nous pourrons obtenir la puissance spirituelle permettant d'agir pour lui parmi nos frères ou envers le monde extérieur. La fervente supplication du juste peut beaucoup, dit Jacques en plaçant devant nous l'exemple d'Élie. Voilà. Il ne suffit pas de se borner à enseigner. Mais, comme je l'ai marqué, il faut qu'on soit connu de Dieu. Voilà. Et maintenant, j'ai terminé par une petite prière. Merci Seigneur de nous faire connaître les bénédictions de l'hospitalité faites avec amour, sagesse et discernement. Merci de nous révéler le secret de la chambre haute avec son mobilier, lit, table, chaise, chandelier, pour que nous ayons une vie chrétienne victorieuse. Fais que toutes ces choses soient bien implantées en nous, afin qu'on les mette en pratique pour vivre une vie heureuse. Amen.